Je vous propose d'écouter pour le moment de la musique et de regarder des photos.
Bonjour.
Histoire de commencer et de laisser porter notre imagination compréhensive sur des images et de la musique. Petite chanson avec des paroles que vous avez lues, pour ceux qui ne comprennent pas et ne parlent pas l'arabe. C'est un chanteur marocain qui s'appelle Omar Maghrebi. Le Maghrebi, Maghreb, ça veut dire l'ouest en fait, opposé à Mashrek qui est l'est, et c'est tous les pays d'Égypte et du Levant. Et les photos datent des années 60 et 70. Et ces années 60 et surtout 60 et 70, à Paris, Marseille et Lyon, eh bien, on a vu fleurir un mouvement musical qui est passé inaperçu du grand public. C'est les musiques populaires du Maghreb. Ces musiques sont nées ici, avec des musiciens qui venaient de là-bas, et qui ont ici tapoté sur la darbouka, l'instrument oriental, mais que l'on trouve aussi au Maghreb, ou gratté un petit peu la guitare, la mandole, ou alors le oud, qui est en fait le luth arabe. Ces musiques, elles ont vécu et se sont développées dans les bars, ou les cafés, qui étaient tenus par des exilés du Maghreb, et particulièrement algériens. On va voir pourquoi algériens tout à l'heure. Dans ces bars, il y avait des musiciens marocains, algériens et tunisiens, donc du Grand Maghreb, qui animaient ces endroits qui étaient considérés par la population algérienne, marocaine et tunisienne comme étant des endroits malfamés, ces bars, qui avaient mauvaise réputation, parce qu'il y avait l'alcool, la drogue, des femmes de compagnie. Et ces musiciens interprétaient des musiques à danser de tout le Maghreb. Souvent pour des hommes, très souvent pour des hommes, parfois pour des femmes, qui venaient en fait se débarrasser des souffrances qui étaient dissimulées, et qui venaient aussi expier par la fête et l'alcool l'immense mensonge collectif qui était pratiqué, et qui consistait à laisser l'émigration se reproduire, je dis bien l'émigration et pas l'immigration, l'émigration se reproduire au nom du respect de soi-même, au nom aussi de l'honneur de la tribu, selon le roman de Rachid Mimouni, que vous avez peut-être lu, alors qu'ici, l'immigré, n'est qu'une force de travail, n'est considérée qu'une force, comme étant qu'une force de travail, et son absence a créé une forme d'exclusion. C'est un monde aussi, le monde des bars, où j'ai rencontré des musiciens comme Zaidi El Batni, Omar El Maghrebi, Amor Hafsouni, Mortar Mesoud, Cheb Rabah El Marnaoui, Ben et Mahmoud, qui jouaient la darbouka, Jamal Estaifi, qui étaient manœuvres et ouvriers la semaine, ou chômeurs, et qui se transformaient en musiciens et chanteurs le week-end, et qui étaient aussi l'objet de sollicitations continuelles, constantes, pour jouer dans les cafés musicaux et les fêtes privées, comme les mariages, les baptêmes et les anniversaires. Alors certes, ils jouent des airs de là-bas et des tubes, mais il arrive aussi souvent pour les plus téméraires de devenir auteurs, compositeurs et interprètes. Leurs chansons témoignent d'une véritable intimité avec le vécu de l'exilé. Ces chansons, elles parlent de séparation, de déracinement, on l'a vu, séparation, déracinement avec Omar El-Maghrebi. Mais elles célèbrent aussi, ou elles ironisent, sur le mythe du retour, qui est toujours présent, et porte parfois une dimension aussi, ces chansons, politique et morale. Elles sont en tout cas de véritables témoignages de la création en exil et de la situation de l'immigré à partir d'ici et de l'émigré à partir de là-bas. En même temps, ces musiques sont d'une énergie extraordinaire, une énergie très forte, et il y a une forte volonté d'expression. On a donc des bluesmen du déracinement, des chroniqueurs du quotidien, qui sont chargés de soulager les consciences, les esprits et les corps qui sont séparés de leur pays, qui sont absents de leur famille et de leur village. De décembre 91 à juillet 98, pendant 7 ans, un petit peu plus de 7 ans, j'ai suivi des chanteurs dans leurs aventures nocturnes, de bars en gala et de mariages en anniversaire. J'ai joué leur musique avec eux, à l'intérieur d'un monde clos, celui du bar, fermé sur lui-même et pourtant ouvert à tous, puisque c'était des bars publics, dans lesquels on pouvait pousser la porte, si on le voulait, entrer, s'asseoir, à une table pour écouter la musique, danser ou s'amuser. Mais par ironie, je dirais qu'on n'entre pas tout simplement dans un bar où il n'y a que des Arabes qui jouent de la musique arabe, pour des Arabes qui dansent arabe et parlent arabe. Eh bien, en tant que Français, j'ai franchi cette porte. Et j'ai d'ailleurs, pendant 8 ans, été le seul, je n'ai trouvé aucun Français, à part moi, dans tous ces bars, et pourtant, croyez-moi, j'en ai fait. Donc j'ai vécu dans un monde singulier, qui n'existe plus aujourd'hui, ou qui est très très rare, un monde que j'ai vu disparaître peu à peu. C'est le monde de la musique de bar, de la musique, des musiques du Maghreb, et des musiciens aussi. Dans ce monde, j'ai mené l'enquête, puisque je suis aussi sociologue, j'ai mené l'enquête, et cette pratique musicale en exil a été vraiment pour moi l'occasion de faire un terrain, d'être sur le terrain, pour ma recherche. Aujourd'hui, je peux dire que j'en ai été transformé à tout jamais, et ça a transformé, ça a changé, déjà, pour commencer, mes préjugés. Pas bien méchants d'ailleurs, mais préjugés quand même. Et je vais, de manière un petit peu humoristique, vous présenter quel type de préjugés je pouvais avoir quand j'avais 21 ans. Par exemple, le préjugé, je suis musicien, le préjugé consistait à croire que tu sais quelle musique tu vas trouver quand tu commences à enquêter dans les bars. Et tu poses la formule suivante. Des musiciens du Maghreb jouent les musiques du Maghreb. Bon. Mais le préjugé a la dent longue quand même, parce que même si tu rajoutes en France dedans, dans l'équation, ta logique est redoutable et elle te fait dire les musiciens du Maghreb en France jouent de la musique du Maghreb. C'est pas parce qu'ils sont en France qu'ils jouent de la musique du Maghreb en France. Non, ils jouent de la musique du Maghreb. Mais tu ne t'es toujours pas autorisé à te poser la question, à te demander, mais en fait, quelle musique ? Alors, fort heureusement, la sociologie a inventé le terrain et l'enquête. Pour ceux qui ne savent pas encore poser les bonnes questions, qui déduisent avant de vivre, et qui ignorent ce qu'on appelle en sociologie l'induction, avec son cortège d'hypothèses. Je vis, je déduis. Je réfléchis à ma vie, je pose des hypothèses, j'induis. Donc, il y a deux manières de concevoir des objets sociaux, ou des idées. C'est soit de considérer, se poser des questions avant pour préparer. C'est comme quelqu'un qui prépare son voyage et qui, par exemple, je ne sais pas, part en Inde dans telle région et se renseigne sur la culture, les religions, fait un petit peu son dossier pour non pas seulement être explorateur, mais être aussi quelqu'un qui n'arrive pas en colon, qui n'arrive pas pour avec une forme d'arrogance qui ne se voit pas forcément à l'œil nu. Eh bien ça, c'est un travail d'induction qui n'est pas forcément connu, mais généralement, la science ou les sciences sont inductives, c'est-à-dire qu'on va poser des questions de façon à vérifier ou confirmer. Voilà. Mais heureusement, je me suis pris une claque un vendredi 13. Un vendredi 13, en décembre 91, un soir, je commençais mon enquête. Je m'étais donc renseigné un petit peu avec des associations culturelles du Maghreb, qui faisaient des activités et dans lesquelles il y avait beaucoup d'adhérents algériens, marocains et tunisiens. Et ils m'avaient parlé de bars dans la Croix-Rousse, mais sans en dire plus. Donc je me balade ce vendredi 13, je rentrais d'un travail que je faisais musical, et là, monté Saint-Sébastien, à la Croix-Rousse, je descends et j'entends un son de musique. Mais comme je suis musicien, je sais reconnaître a priori quand un son de musique vient d'un CD ou d'une cassette ou de la radio et quand il est joué, comme on appelle, en live. Et manifestement, c'était joué en live. Il y avait une lourde porte en fer avec une petite lucarne. Et j'ai regardé par la lucarne, et effectivement, j'ai vu des musiciens en train de jouer. Donc je ne me suis pas démonté, j'ai poussé la porte. Voilà, elle s'est refermée. Merci. Elle s'est refermée. Et une dame est venue m'a ouvert. Et j'étais un peu intimidé, j'ai dit, est-ce que je peux entrer pour écouter la musique? Et elle a eu cette formidable réponse qui met à l'aise. Si t'es un bon client, il n'y a pas de problème. Donc, je suis entré, j'ai été un bon client. Et là, devant mes yeux, ébahis de gamins de 21 ans qui venaient de la campagne et qui a su par la suite qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre l'exilé du Maghreb et l'exode rural en France. Et ça, c'était important aussi d'établir cette comparaison et cette explication, parce que je me suis senti, pendant toutes ces années, beaucoup plus proche des émigrés, des immigrés, des exilés, qu'en fait, des Français. Ou des Français, ou en tout cas des Lyonnais, puisque j'étais à Lyon et je venais de la Gascogne natale. Et en fait, c'est pour ça que mes préjugés n'étaient pas si dangereux que ça, dans le sens où je me suis trouvé des affinités, alors que, a priori, à première vue, ce n'était pas ma culture. Bien, j'ai trouvé beaucoup plus de ressemblances, donc il fallait être quand même suffisamment disposé ou disponible avoir dans l'étranger un alter ego. Bon, c'est la naïveté de la campagne, donc je vous souhaite d'y naître. C'est trop tard? Bon, tant pis. Bon, il faut dire aussi que j'étais musicien et que je cherchais. Alors, je cherchais des formes musicales autres que la chanson française et le rock. Donc, j'ai pas été déçu. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je suis rentré dans ce bar? Qu'est-ce que j'y ai vu? J'ai vu une guitare électrique. C'est pour ça que je vous disais musique du Maghreb. Oui, les musiciens maghrébins jouent, des musiciens du Maghreb jouent de la musique du Maghreb. Mais moi, je pensais que c'était une reproduction d'une tradition. Si on est au Maghreb, on est traditionnel. Eh bien non, on peut être moderne aussi, heureusement, puisque, comme je vous l'avais dit la dernière fois pour les musiques africaines, il y a eu la révolution électrique dans les années 60. Et que l'utilisation de la guitare électrique s'est diffusée dans le monde entier, y compris le fait de sonoriser, par exemple, ou de mettre un micro sur un luth arabe traditionnel, un luth oriental. Il y avait une boîte à rythme, il y avait un tambour acoustique, il y avait un violoniste, un joueur de synthétiseur et un joueur de luth. Je me disais, mais c'est quoi ce mélange? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je m'étais interrogé sur ce qu'on appelait à l'époque les musiques du monde, la world music, qui, je vous le rappelle, est un terme qui a été créé en 87 et qui est un terme très facile aussi pour mettre tout ce qui n'est pas nous dedans. World music, c'est la musique des autres. Bon, alors qui nous sommes? Bon, c'est les autres. Bon, ben voilà, ce sont les autres. Bien. Et dans les autres, croyez-moi, il y a du monde. Et tout ce mélange, ça a été la première rupture de préjugés. Parce que ce n'étaient pas des jeunes qui jouaient. C'était des anciens. C'était des personnes qui étaient arrivées dans les années 60. Et comme je vous disais tout à l'heure, qui étaient manœuvres, ouvriers, la semaine. Et qui, le week-end, jouaient de la musique. Donc merci au terrain. Merci de vérifier. Mais ça m'a bien servi de leçon. Hein. Il suffit souvent, enfin j'espère, pour tout le monde, de vivre une expérience une fois pour qu'elle puisse être, elle puisse révéler ou qu'elle puisse, en tout cas, parler et diffuser de la compréhension et une rupture organisée du préjugé. Loin de l'image qu'on peut trouver mutique, effacée et pleine d'abnégation que l'on pourrait avoir de l'immigré du Maghreb, de la première ou de la deuxième génération, ces bars musicaux témoignent en fait d'une musique hédoniste, une musique de joie, sans complexe, d'une grande inventivité aussi de ces hommes de l'ombre, d'une soif de vie partagée par les musiciens et qui a trouvé dans ces bars les lieux d'expression. Qui a aussi, et ça c'est les années 80, fin des années 70, début des années 80, construit ses propres dispositifs de production et réussit à satisfaire les publics par la fabrication de cassettes et la vente de cassettes. Puisqu'il y a eu rue Moncey, derrière la place du Pont, rue Moncey, rue Villeroy, il y a eu des maisons de production de cassettes qui ont diffusé dans toute la France, toute la région, il y en avait aussi à Paris et Marseille. En gros, le couloir, on va dire Marseille, Lyon, Paris. C'est important aussi de dire que toute cette production de cassettes n'a eu aucun effet sur le pays d'accueil. Encore une fois, quand j'allais acheter des cassettes, je ne trouvais pas beaucoup de Français pour acheter ces cassettes. Et je trouvais paradoxal que le succès de Cheb Khaled, par exemple, dans les années 80, à Bobigny, puisque ça a été, on va dire, le premier artiste algérien ou du monde arabe ou en tout cas du Maghreb particulièrement à faire connaître un style qu'on ne connaissait pas à l'époque, le style raï. Et je m'étonnais que avec tout ce succès qu'il avait pu remporter même dans la société civile française hein, parmi les jeunes issus de l'immigration, ou même les Français aussi, hein, qui allaient danser, les jeunes Français dans les années 80, en pleine époque Mitterrand, je vous le rappelle, hein, c'est-à-dire une époque où la musique de l'autre, ou la musique des autres, où l'altérité était valorisée, l'ouverture, en tout cas, eh bien qu'il n'y ait pas plus de Français dans ces bars. C'est-à-dire, ah ben tiens, c'est la musique comme chez Khaled, il y a du raï aussi, on va aller voir. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est que tous ces gens fréquentaient ce qu'on appelle les concerts, et non pas les bars. C'est ce que je vous disais tout à l'heure de manière ironique, c'est qu'on n'entre pas dans, quand on entend de la musique arabe, on n'entre pas alors que la situation elle n'est que arabe. Je vais essayer de vous dessiner un petit peu les contours de cet espace social, du public, des bars et des musiciens. Et je ne vais pas parler, et je l'aurais souhaité, mais ce n'est pas possible, de tous les jolis, les très beaux travaux de Abdelmalek Sayed sur cette histoire de l'exilé, et particulièrement, qu'est-ce qui construit la notion d'immigré ici, et qu'est-ce qui construit la notion d'émigré à partir de là-bas. J'aurais voulu aussi vous parler de la guerre d'Algérie. Alors bien sûr, j'aurais voulu, vous allez me dire, mais pourquoi vous ne le faites pas? Mais parce que, pensez à tout ça, si je vous parle de cette histoire de l'immigration par exemple, il faut toujours s'interroger sur les systèmes politiques qui l'ont autorisé, aussi. Et les ouvrages d'Abdelmalek Sayed, je vous les conseille vivement, particulièrement pour ceux qui, aussi, peuvent trouver par un détour miraculeux des correspondances entre soi-même dans des ruptures que l'on peut faire personnelles et des ruptures collectives et aussi personnelles qui se sont établies dans l'immigration. Pensez toujours au détour, pensez toujours à ce qu'en fait les résultats que vous pouvez trouver chez vous sont détournés. Voilà, n'ayez pas peur du détour. Ça ne veut pas dire fuir, mais au contraire se nourrir de toutes les façons possibles, de façon à provoquer chez nous un système de compréhension pour soi et pour les autres. C'est pas de la morale, hein. C'est un conseil. Donc, un espace social avec ses musiciens et son public. Un public qui vient écouter les paroles des chansons, des paroles de chansons qui raniment les souvenirs du pays, entre nostalgie et autodérision, parce que j'ai découvert des individus avec un humour, mais j'ai pleuré de rire avec eux. C'était incroyable, un humour et une autodérision au milieu de cette nostalgie et de cette souffrance qui m'ont bouleversé et qui m'ont inspiré aussi, ou comme ça peut aussi inspirer des philosophes, ou ça peut inspirer aussi des écrivains. C'est la vie des autres avec leur souffrance et la pratique de l'autodérision. D'ailleurs, Bachelard, c'est un philosophe des sciences, c'est juste une petite parenthèse, Bachelard dit qu'il n'y a pas de vraie connaissance sans autodérision. Bon, c'est Bachelard. Mais il n'y a pas que les paroles des chansons, il y a aussi les rythmes. Les rythmes qui sont saccadés, qui martèlent. Et quand on a, ça peut sembler complètement paradoxal, d'avoir une musique très jolie, très dansante, avec des paroles très tristes. C'est peut-être ça l'autodérision, justement. Donc la danse est exutoire, elle permet de sortir de son corps aussi. Et ça c'est important, pas seulement intellectuellement, en écoutant passivement des paroles de chansons. Mais ça permet aussi de penser des désespoirs d'un retour enchanté qu'on pourrait s'imaginer au pays. Le paradoxe de venir se faire du bien dans des lieux qui sont réprouvés, des lieux qui sont, comme on dit en arabe, haram, des lieux qui sont considérés par la communauté comme malfamés, eh bien ces lieux on les connaît en France, ou on les a connus. Ce sont les mêmes lieux que les cabarets populaires de Paris des années 50, où la chanson, comme dit Jacques Vassal, est un cri de ralliement, est un appel à l'aide ou à l'amitié, est aussi une occasion, ou produit des occasions d'informer, de rire, d'aimer, de danser, de s'indigner ou de fraterniser. On peut voir deux sortes de bars. Le bar de la journée qui permet d'obtenir des informations du pays, par exemple, et le bar du week-end et de la soirée qui est le bar musical pour la détente. Ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui vont dans les bars pour discuter, avoir des informations, et dans les bars musicaux pour aller s'amuser et passer un moment qui peut effectivement aussi faire souffrir, mais un moment où, encore une fois, c'est le côté exutoire. On va expier et on va se défouler. Les premiers cafés, ils sont à la fois dans les grands ensembles, ce qu'on a appelé les grands ensembles dans les banlieues, dans les années 60, mais ça peut aussi, difficile, il faudrait des informateurs, ou en tout cas un peu plus, ça peut aussi dater des années 50. Bien sûr, on connaît les cafés dans le centre-ville. La place du Pont, avec rue Moncey, avec la place du Pont, tout autour de la place du Pont. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le centre de la place du Pont, tous les migrants de la région Rhône-Alpes se retrouvaient. Ils venaient de la banlieue lyonnaise, mais aussi des villes alentours, comme Vienne, ou comme Neuville-sur-Saône, ou encore de plus loin. Et comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, des ouvriers qui travaillaient par exemple à RVI, à Vénissieux, s'associaient à deux ou trois, et achetaient un café. Alors au début, c'était des endroits où on improvisait un lieu, avec des tables, des chaises, et c'était, en fait, le seul endroit où les hommes pouvaient se retrouver après le travail, et aussi les jours de congé, samedi, dimanche, pour discuter du pays, retrouver un ami, retrouver une connaissance, et obtenir des informations sur le pays. C'est vrai que les appartements ou les garnis, ou encore les chambres de foyer, étaient très petites. Et même s'il y avait une vie commune dans ces foyers, il n'y avait pas non plus la même vie que dans un quartier de ville ou quand on a un café ou quand on peut se déplacer dans des endroits publics. Alors certains, dans les entretiens que j'ai eus, disaient par exemple qui ne pouvaient pas recevoir, par exemple, la notion de recevoir à cause de la gêne qui pouvait être occasionnée, il n'y avait pas le confort nécessaire. Ou alors, au début, il y avait une vague plutôt traditionnelle qui considérait en fait que ça gênait aussi de recevoir avec la femme et les enfants. Et ça justifiait en quelque sorte d'aller, comme nous aujourd'hui, dans un lieu extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans le bar? Eh bien, les nouvelles s'échangent. Et le patron, et vous allez voir aussi la patronne, le patron, ce qu'on appelle le patron communément, le gérant si vous préférez, il a un pouvoir particulier parce qu'il a un pouvoir de gestionnaire des informations. Par exemple, quand il y a un décès au pays, eh bien, on sait qu'on peut téléphoner à tel bar pour joindre un tel. Et oui, il faut s'imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Enfin, en tout cas, pas dans les foyers, et le téléphone portable encore moins. Donc, on vient dans le bar pour avoir des nouvelles du village, des familles, et par exemple, s'il y a une collecte à faire pour un décès ou pour aider quelqu'un, eh bien, ça peut se faire aussi dans des réunions, avec des réunions dans les bars. On pourrait dire que c'était un lieu où on venait chercher quelque chose, et pas un lieu de détente. Ce n'est pas la même recherche. On peut aussi demander à écrire une lettre. L'écrivain public, il peut être dans le bar aussi. On peut se faire expliquer des papiers administratifs. On peut traiter une affaire. Donc, quelque part, ça ressemble au bar qui existait aussi, c'était la même époque aussi, les années 50-60, avec nos grands-parents. Enfin, en tout cas, mon grand-père, il allait aussi dans les bars pour avoir des informations ou pour même pour ceux qui, des ouvriers, des bars ouvriers, que ceux qui n'écrivaient pas ou qui écrivaient très mal, ben, l'écrivain public se déplaçait pour les aider. Un autre individu que j'ai interrogé m'a dit, dès qu'on franchit la porte, on se retrouve presque chez soi, avec des gens qui nous ressemblent. Alors, l'aspect du bar maintenant. L'aspect du bar, c'est vrai qu'il peut un peu rebuter parce qu'il est très sobre, à vrai dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas branché, comme on pourrait dire aujourd'hui. D'ailleurs, dans les années 50 ou 60, les bars branchés, bon, ils n'avaient pas tant que ça. Donc, même si l'aspect peut sembler vétuste, c'était toujours propre, certes modeste, mais avoir un bar, ça n'a jamais été réfléchi aussi pour la pérennité. C'est-à-dire que, ça c'est un patron de bar qui me disait ça, je fais quelque chose pendant 3 ou 4 ans, et, comme tout le monde, j'envisageais de rentrer au pays. Donc à quoi ça sert d'investir dans des travaux, pour faire des travaux et pour embellir le bar, alors que de toute façon, je vais partir ou j'envisage de partir. Mais ce n'est pas tout. C'est que s'ils ne faisaient pas de travaux, c'est qu'ils étaient bousculés par l'administration, par les contrôles, parce qu'il y a ça aussi, et que c'était très difficile d'un point de vue administratif d'avoir des bars sans contrôle et sans administration. Là, on ne pouvait pas. Une autre personne que j'ai interrogée, elle me dit, le type, il n'allait pas investir dans un truc qui pouvait fermer un jour, du jour au lendemain, un lieu qu'on pouvait aussi lui fermer. Alors au début, les tenanciers des bars étaient tous des Algériens. Alors pourquoi? C'est que suite aux accords d'Évian, qui ont terminé la guerre d'Algérie, et bien en fait, les Algériens sont les seuls à avoir l'autorisation de tenir un bar. Et d'avoir aussi la licence 4. Pas de Marocains, pas de Tunisiens. En tout cas, pas patron de bar. Ensuite, les clients, oui, pouvaient être Marocains et Tunisiens. Et en plus, la loi autorisait aussi à fermer une heure plus tard le bar. Dans les années 80, fin des années 80, c'était majoritairement des femmes qui tenaient les bars. Alors, il y a peut-être une hypothèse, c'est que la personne ou le patron ne pouvait pas s'en sortir qu'avec le bar, et de toute façon il avait deux boulots. Il avait l'usine, et puis le bar lui demandait un autre travail. Ces femmes qui étaient, j'en ai rencontré, je me suis lié d'amitié avec certaines, j'ai même donné des cours, on avait un deal, j'ai même donné des cours de français aux enfants. Voilà, bon, ça ne faisait pas partie de mon travail, on va dire, mais c'était un deal. Et j'étais à chaque fois invité pour le ramadan, par exemple, pour rompre le jeûne le soir. Et c'était des femmes qui étaient très importantes. On le voit. Enfin, je l'ai vu, en tout cas. Qui avaient souvent des parcours chaotiques, qui étaient quelquefois divorcées, parfois répudiées aussi. Et comme m'a dit un des musiciens, il m'a dit, les musiciens fréquentaient beaucoup ces femmes-là, en tout cas, les patronnes de bar avaient affaire à ces musiciens. Il me disait, c'était des battantes, c'était des grandes personnalités, et en plus, elles étaient d'autant plus importantes qu'il fallait élever des familles, il fallait élever des enfants. En même temps, elles n'étaient pas forcément bien vues dans la communauté, mais ça ne se disait pas. Un autre qui m'a dit, elles représentaient la mère symbolique. Elles étaient fortes comme une maman. Et ce qu'elles m'ont dit, ces femmes aussi, c'est qu'elles recueillaient beaucoup de confidences des hommes, célibataires par exemple. Elles recueillaient beaucoup de confidences des hommes qui avaient des soucis. Et quelque part, c'est vrai aussi que l'alcool fait parler. Ça aide. Un autre qui m'a dit qu'elles étaient incontournables. Ces femmes étaient incontournables. Et c'est vrai que je les ai beaucoup aimées. Je les trouvais Elle me faisait penser à l'image que l'on peut se faire positive de la femme méditerranéenne, c'est-à-dire une femme forte qui gère à la fois l'intérieur, le domestique, et l'extérieur, c'est-à-dire l'espace public, parce que les hommes, il faut les calmer. Maintenant, les autres bars. Les autres bars, les bars de l'argent, les bars de la fête. Parce que faire la fête, c'est avec l'argent aussi. Un des musiciens me disait, dans un bar, tous les moyens sont bons pour dépenser son argent. Et certaines personnes, qui sont un petit peu fragiles, par la nostalgie qui les domine, parce que la nostalgie, c'est ce qui met toujours dans la difficulté, c'est ce qui met toujours dans le lieu de la tristesse. Et quand la personne est triste, le seul recours pour lui, c'est « je vais boire, je vais fumer, je vais me défouler ». Finalement, la personne se défoule, mais le problème reste le même le lendemain. Bon, ça ressemble étrangement à nos situations qu'on peut vivre ici, hein. Enfin, je veux dire, en tant que Français, vous voyez, ça fait plaisir. Mais en même temps, cette situation aussi de la nostalgie, ça les a en quelque sorte, pour certains en tout cas, ruinés. Mais ça fait pas partie de l'analyse, c'est un jugement de valeur. Mais en tout cas, c'est un témoignage recueilli que ça les a ruinés. Et qu'est-ce qui se passait? C'était simple, c'est qu'à l'époque, les ouvriers se faisaient payer en fin de semaine. Et ils se faisaient payer en liquide. Donc, dès qu'ils avaient l'argent en poche, eh bien, ils allaient le dépenser pour partager, pour payer des coûts à des amis. Hein. Et faut pas voir la situation individualisante, la situation égoïste qui consiste à aller dans un bar et d'être tout seul. Personne n'était tout seul, ils étaient tous ensemble. J'ai vécu des situations, j'ai assisté à des situations où dans une soirée qui marche très très bien, où j'ai joué avec un musicien que j'ai accompagné pendant 7 ans, je joue avec un musicien, il gagne beaucoup d'argent parce que c'est l'argent avec le plateau. Je vous raconte un petit peu. Le patron ou la patronne, de manière symbolique et pour ouvrir la soirée, prend un plateau, met des sucres sur le plateau, elle pose le plateau devant le musicien et elle commence à, le patron commence à met un billet de 10 francs, par exemple. Oui, parce que les années 90, c'est les francs. Je suis désolé. Oui. Met un billet de 10 francs. Eh bien, ça ouvre la soirée. Donc, les musiciens qui sont là, les musiciens commencent à jouer. Ils jouent. Et on peut demander une chanson. Donc, comme un DJ, si vous voulez, on va vers la personne et on lui demande une chanson. Et en lui demandant une chanson, on met un billet. D'accord ? Eh bien, j'ai vu des enchères et des joutes monter comme ça parce qu'il y avait deux individus qui voulaient une chanson différente. Il y en avait un qui venait de l'Est algérien et qui était de Sétif, un Staifi, et il y en avait un autre qui était Warani, qui venait d'Oran. Eh bien, tous les gens de la région d'Oran se sont mis avec le gars d'Oran pour faire monter les enchères de la chanson. Et tous les gens de Sétif se sont mis avec le gars de Sétif pour faire monter la chanson. On est quand même allé jusqu'à 3000 francs. À l'époque, c'est bien. Et tout ça dans une ambiance formidable. Donc l'argent n'a pas le même sens pour nous, on va dire en Occident, que le libéralisme ou le capitalisme. Ça n'a rien à voir. C'est que l'argent est une situation d'honneur. C'est je donne, et parce que je donne, je suis grand seigneur. Vous comprenez? Ça, c'est important. Et j'ai retrouvé énormément de correspondances avec mes grands-parents, qui sont ouvriers, et pour qui l'argent, ou mettre de côté, n'était pas forcément quelque chose de... n'était pas forcément... ne faisait pas partie forcément des habitudes. Enfin, c'était plutôt les femmes qui mettaient de côté. Ou qui voulaient qu'on mette de côté. Les hommes étaient plutôt dépensiers. Bref. Donc une enchère qui monte comme ça, et puis celui qui a le dernier mot a la chanson. Donc le musicien avec qui j'étais, la soirée finie, c'est-à-dire elle terminait vers, 11h, le samedi, il dit range ta darbouka, range tout ça, on va dans une autre soirée. Effectivement, on est allé dans une autre soirée, donc ça, on range tout. Bon, le bar continue à ouvrir, mais à être ouvert, pardon, mais il n'y a plus de musique. Et quelquefois, ces musiciens faisaient trois soirées dans la même soirée, tellement ils étaient demandés. Il y avait beaucoup d'argent qui était donné pour ces soirées. Donc, si vous voulez, la notion de vedette qu'on peut voir à la télévision, ou la notion, je l'ai vécu, mais comme je vous disais, dans un monde clos, c'est-à-dire le bar, qui est pourtant un lieu public. Il y a du monde, et les vedettes, c'était toujours étrange quand je sortais dans la rue de dire, mais j'étais avec une vedette, là. Et de voir en sortant dans la rue que personne ne le connaissait, ou que ça ne faisait rien à personne. Ça peut apprendre ce qu'on appelle communément le relativisme. C'est vrai. Bon, ça ne m'a pas suffi, le relativisme, il a fallu que j'aille un petit peu plus loin, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, oui, alors pour continuer sur les stratégies d'honneur, donc ce musicien avec qui j'étais est allé dans une autre soirée, mais là c'était pas une soirée où on allait jouer, c'était une soirée où il y avait des musiciens. Donc ils se rendent visite les uns les autres, soit dans les cabarets, soit dans les bars, parce qu'il y avait des cabarets aussi dans le premier, hein, dans le Vieux-Lyon, il y avait des cabarets, où ça dansait, bien évidemment. Et là, il a payé des coups à tout le monde, et tout l'argent qu'on avait gagné dans la soirée, il n'y avait plus rien à la fin. Et il était heureux, et moi aussi. C'est vrai que quand on est jeune, c'est pas facile de dire à des gens un petit peu sérieux et un petit peu fermés, qu'en fait, ça peut être un mentor, cette personne-là. Mais en fait, moi aussi, j'ai vécu mon apprentissage avec des sages, mais des sages qui étaient pas très sages. Mais pourtant, c'était des anciens. Vous voyez comme quoi, hein, la sagesse, c'est pas forcément ce que l'on croit. C'est Goethe qui dit « parce qu'alors j'étais fou qu'aujourd'hui je suis sage ». Et aujourd'hui, je fréquente ce musicien, et effectivement, il est devenu sage, mais ce qui n'empêche pas de rigoler, de se rappeler du bon vieux temps, c'était vraiment des vedettes. C'est-à-dire, pour vous faire une comparaison, vous voyez tout ce que l'on peut dire de la fureur de vivre, ce que l'on peut dire des années 60 et 70, avec la consommation de l'héro, avec tous les morts qu'il y a eu, le LSD, etc. Ces trajectoires d'artistes ou de chanteurs qui sont allés très vite et qui sont morts très très vite, eh bien, c'était ça que j'ai vécu, on va dire, avec eux, mais avec le vedettariat en moins, en tout cas, avec le fanatisme en moins, et quelque part la sagesse et l'humour en plus, quoi. Bon, je crois que vous aurez compris. Un autre témoignage qui dit que c'était quand même mal vu. Je reviens. Donc on était payé en liquide le vendredi, vous avez compris, donc qu'il y a des stratégies, etc. Bon, et il y avait aussi ce qu'on appelait les acomptes. Ben, les acomptes, ils partaient vite en fumée le week-end. Mais il y a aussi ce qu'on connaît dans les bars, ce que vous avez peut-être connu, c'est les crédits et les ardoises. Hein, les ardoises, les crédits, tout ça. Bon, mais ça, c'était très pratiqué. Mais c'était mal vu quand même, parce que vous savez toujours qu'il y a des redresseurs de tort, partout, dans toutes les cultures, il y a toujours des redresseurs de tort. C'était mal vu parce que on disait qu'il y avait des célibataires, qu'il y avait des familles là-bas. Et quand ils buvaient ou quand ils dépensaient de l'argent pour payer des coups à leurs amis, et ben en fait, ou quand ils jouaient au jeu aussi, parce qu'il y a le jeu. Hein? Alors pas le jeu, le PMU, enfin pas tous ces jeux qui sont devenus, ben, on va dire, très envahissants, mais à l'époque c'était le tiercé, c'était que le dimanche. Hein? Fait que, voilà, tiercé, le dimanche, c'est tout. Mais ça jouait, mais c'était tout. Donc certains disaient, bon, il a des familles là-bas, et quand il boit, il dépense la compte, et c'est toujours un mandat de moins qui est envoyé dans la famille. Donc pour certains, c'était des lieux de déperdition. Mais comme chez nous, quand on pense, voilà, mon grand-père traînait souvent dans les bars, bon, mais voilà, on disait de lui qu'il était perdu, sauf moi. Bon, il y a peut-être un rapport d'ailleurs avec mon grand-père et tout ça. Donc en fait, dans ces lieux, certains jugent et disent qu'ils oublient leur famille dans l'alcool, mais à vrai dire, c'est pas leur famille qu'ils oublient. C'est pas leur famille qu'ils oublient. Et en même temps, ce qui est mal vu, bien évidemment, pour la vindicte populaire, c'est de voir que les gens ne construisent pas leur vie. Parce qu'une vie bien rangée, aujourd'hui, c'est, bon, peut-être pas être marié, mais c'est d'avoir un ami, une amie, une femme, des enfants et d'être propriétaire. Bon. Moi, j'ai rien de tout ça. J'ai eu mes mentors, hein. Bon, j'exagère. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'amis, hein, je vous rassure. Je ne sais pas si ça va vous rassurer, d'ailleurs. Non, j'ai une bonne tête, ça va. De toute façon, si j'étais accepté par les Arabes, c'est pas pour rien. Hein. Vous voyez, c'est quand même que j'ai un peu une tête de Méditerranée, hein, quand même. En tout cas, on me parlait souvent arabe ou kabyle, hein, quand j'étais avec eux. Je demandais des traductions parce que ça allait vite, quand même. Hey, donne-moi cette chanson, vas-y, fais ça, dis-lui, toi, de faire ça, allez, viens boire un coup, etc. Mais c'était... Il fallait la santé, je l'avais. Alors, il faut toujours un départ pour une étude. Et le départ, ça a été certes ce vendredi 13, 1991, mais ça a été aussi un bar que vous avez peut-être connu, qui se trouvait à la place du pont, et qui s'appelait le bar Le But. Ça a été le point de départ de rencontre. C'est un bar, en fait, qui m'a permis de... Vous savez, il faut un point de départ, il faut, on va dire, un centre, de façon à rayonner tout autour. Et en fait, qu'est-ce que c'est ce bar? Eh bien, de 1980 jusqu'à sa fermeture en juin 1997, le bar Le But, en fait, a servi de siège et de QG à des musiciens algériens, marocains et tunisiens qui se retrouvent les soirs de fin de semaine et surtout les samedis toute la journée dans l'attente d'appels téléphoniques. Enfin, vous voyez, il faut revenir encore à ça, dans l'attente d'appels téléphoniques qui leur proposent des animations. Donc voilà, est-ce que tu es libre? Est-ce qu'un tel est libre? Je suis sétifien, j'appelle un sétifien. On a entendu parler d'eux. La production de cassettes, en plus, a fait connaître des musiciens aussi. On achetait les cassettes sur le marché, on achetait les cassettes et on voulait, quand ils étaient lyonnais, ces artistes, on voulait les retrouver sur scène, enfin en tout cas on voulait les retrouver dans le mariage qu'on organisait, dans le baptême et dans les bars aussi. Alors les propriétaires, la femme était française et les parents ils étaient tous les deux français, mais la femme était française et les parents du mari étaient arméniens. En fait, ils achètent cet établissement en 1976 et il a été ce QG déterminant pour tous les musiciens. Parce que là, il ne servait plus seulement d'information, mais c'était le central où on recevait tous les appels. Voilà. Mais il y a un constat qui m'a interrogé quand même. Parce que dans les discussions avec les musiciens, beaucoup regrettaient, donc l'enquête a eu lieu dans les années 90, beaucoup regrettaient les années 70, qui étaient, selon les musiciens, une période pendant laquelle tout le monde trouvait facilement du travail. L'ambiance était plus solidaire et tout le monde jouait avec tout le monde. Et l'enquête exploratoire que j'ai menée presque un week-end sur deux, quasiment pendant toute l'année 92, dans les galas, les bars, parce qu'il y a les galas aussi, on loue une... Les galas, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent d'un concert, si vous voulez, mais c'est un autre terme. C'est un terme des années 70. Les galas, une association loue une salle des fêtes et ensuite invite des musiciens. Il n'y avait pas d'alcool, d'ailleurs, dans les galas. Donc, toute l'enquête exploratoire que j'ai menée pendant presque un an m'ont amené quand même à formuler l'hypothèse d'une situation un petit peu paradoxale, c'est-à-dire qu'en apparence, tous ces musiciens étaient solidaires, mais c'était vécu comme une concurrence. Parce que plus on va avancer dans les années 90, et plus il va y avoir de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements qui ne sont pas dus forcément aux individus eux-mêmes, mais qui sont induits aussi, alors que c'est un monde clos, eh bien, ce n'est pas un monde clos qui va être protégé d'une forme de crise. Ce n'est pas parce qu'on a des mondes clos que le bar est un monde clos qu'il n'y a pas une crise, et particulièrement la crise de la multiplication, non pas des individus dans une soirée parce que le groupe est grand, mais qui va en fait, ça va être, on ne va pas dire le coupable, mais c'est le synthétiseur qui va créer le chômage. Vous vous saisissez? Alors vous qui n'êtes peut-être pas musicien, vous allez peut-être trouver ça étrange. Mais qu'est-ce que permet le synthétiseur? Le synthétiseur, il permet de venir jouer seul, avec une boîte à rythme. Boîte à rythme, je programme, je fais mon programme de synthétiseur, j'appuie sur une touche, ça me met, si vous voulez, la base. Allez, une boîte à rythme, ça y est, j'ai la darbuka, j'ai le bendir dedans, j'ai tout. Tout le rec, tout, j'ai tout dedans, et après avec le synthé, pouf, on joue le synthé, et il n'y a plus qu'à chanter avec le micro. Donc il ne faut pas voir forcément une solidarité affichée, une concurrence vécue, comme étant une concurrence visible, comme on peut se l'imaginer. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont encore un petit... Enfin, qui sont... Si on ne fait pas une enquête dessus, on a du mal à y voir clair. Pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que les instruments arabes acoustiques, comme le luth, le violon, la darbuka aussi, alors le violon, il y a un autre nom, c'est kamanje, c'est-à-dire que c'est un violon qui n'est pas joué comme ça, comme à la manière occidentale, vous voyez, mais qui est joué comme ceci. Voilà. Et on retrouve des instruments similaires à une corde, comme le rabab, dans le monde arabe. Bon, bref. Donc tous ces instruments acoustiques se mélangent aux instruments occidentaux électriques. Électriques. Mais là on arrive à l'électronique, c'est-à-dire le synthétiseur. Depuis fin 1980, l'utilisation du synthétiseur et de la boîte à rythme programmable est en fait de plus en plus fréquente. Cette transformation qui est en apparence commune, ben oui, le synthé, bon ben voilà, se répercute en fait sur le milieu musical. C'est pas grave. C'est gentil. Mais vous avez plus de batterie, vous voulez dire mon ordinateur?
Exactement.
Parce que moi ça va. Hein, en fait. Alors je vais peut-être. Oui. Alors puisque j'ai. Non. Mais je l'ai pas amené. Alors on va revenir à ça. Parce que il y a. Enfin, vous savez, c'est un monde. Hein, donc comme c'est un monde, c'est comme si je devais étudier la société française, il faudrait parler de tout. Donc, je vais vous montrer, je vais en profiter, merci, mademoiselle. Je vais en profiter pour vous montrer les jaquettes. Les jaquettes des cassettes. Entre la fin des années 70 et... En gros, le monde des cassettes, ça a duré jusqu'à 96. La fabrication des cassettes, jusqu'à 96. Alors que les premiers CD, c'est 89, je crois. Premier CD, hein. Bon. Alors... Je vais vous montrer d'abord celui qui plaisait aux femmes. Amour Hafsouni. Alors lui, c'était le Don Juan. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez un peu l'esthétique? Oh, mais non. Non, 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 10 minutes, il restait. Ah, ça faisait un moment? Qu'est-ce que je pourrais faire? On mettra ça sur Internet? On mettra ça sur... Oui, oui, bien sûr. Bien. Ah ben ça m'a cassé la batterie, ça. Bon. Alors, c'est une transformation qui est en apparence commune, mais je vais vous en parler aussi vite fait, même si vous n'allez pas voir les cassettes, enfin, en tout cas l'esthétique, parce que ça aussi, c'est une parenthèse qui est importante. C'est-à-dire qu'on croit toujours que l'esthétique, c'est l'élitisme. Il y a une esthétique populaire. Hein. L'esthétique, ça n'appartient pas qu'aux dominants. Hein? Bon, merci. C'est gentil de dire oui. Donc, cette transformation qui est en apparence commune se répercute en fait sur le milieu musical. Bon. Les musiques, elles sont matérialisées sous forme électrique à partir des années 80. Elle puise encore dans les traditions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va... On va s'inspirer de quoi? Des thèmes. Mais des thèmes récents, d'ailleurs. Par exemple, les thèmes de l'exil. Mais pas que. C'est-à-dire que les rythmes, même s'ils sont programmés sur la boîte à rythme,
restent les rythmes traditionnels. On va pas faire danser les gens n'importe comment quand même. Si on a un rythme qui fait 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, on va pas le jouer autrement, quoi. On va pas faire gzgat, kat, gzgat, kat. Non, 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 c'est les mêmes rythmes et ils sont programmés à la boîte à rythme. Les thèmes des chansons, je vous l'ai dit. Donc les sons changent, mais en même temps, ça ne paraît pas étrange. Pourquoi ça ne paraît pas étrange que les sons changent avec l'utilisation du synthétiseur? Eh bien parce que ça se fait déjà au pays. C'est à partir du pays que les opérations de changement se font. Les opérations de changement, c'est-à-dire l'utilisation des synthétiseurs, l'utilisation, parce que ça s'est fait dans les années 70, de tout ce mélange d'instruments. Donc ce que j'ai découvert le 13 décembre, comme Christophe Colomb croyant avoir découvert l'Amérique, bon, j'ai pas fait les mêmes bêtises après que lui, heureusement, eh bien, en fait, préexistait déjà, et je ne le savais pas. C'est au pays que se sont faites toutes les... comment dire... toutes les innovations de la musique. Donc, on écoute des cassettes ou des disques aussi, alors des disques au tout début, parce que je vous le rappelle, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est que la majorité des musiciens, une cinquantaine que j'ai connus dans les années 90, la majorité des musiciens ne jouaient pas de la musique avant d'arriver en France. Donc il y a quand même une culture d'apprentissage de la musique qui est très forte. C'est-à-dire, dit autrement, tout le monde... Bon, j'exagère, c'est pas non plus quelque chose qui enchante, mais disons que beaucoup d'Algériens, de Marocains ou de Tunisiens tapotent et ont le rythme. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont dans le sang, mais la musique fait partie véritablement de la culture. Tout le monde danse, dans les fêtes surtout. Donc il y a des apprentissages d'éducation qui se font très très jeunes, pour les jeunes filles particulièrement. Mais il y a autre chose. C'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au Maghreb ? C'est que quand on est à Alger et qu'on va dans un cabaret d'Alger, on ne va pas y rencontrer des Tunisiens et des Marocains. Quand on va dans un cabaret de Tunis, on ne va pas y rencontrer des musiciens algériens ou marocains. Quand on va dans un cabaret de Casablanca, on ne va pas rencontrer des musiciens, si vous suivez, tunisiens ou algériens. Donc, il y a quand même une situation nouvelle en France, c'est le fait que tous ces musiciens algériens, marocains et tunisiens se côtoient dans les mêmes endroits, dans un même milieu de pratique. Et ça, c'est une condition nouvelle. Donc ça force le partage de situations identiques, mais pas que. Ça implique aussi que si on veut être, alors que je suis musicien, chanteur, on va dire chanteur, voilà plutôt, si je suis chanteur algérien de l'Ouest, d'accord ? Donc plutôt, on va dire oranais, pour dire vite. Eh bien, je vais plutôt connaître, on va dire, le raï ou le melhoud. Bon. Mais, si un Tunisien vient me demander une chanson tunisienne, il faut que je sois en capacité de lui jouer une chanson tunisienne. Donc, le côtoiement de tous ces musiciens va faire en sorte qu'ils vont connaître un nombre incalculable de musiques de toutes, presque, les communautés, ou en tout cas, les communautés, il faut s'imaginer, je préfère dire groupe parce que communauté c'est un peu galvaudé, de tous les groupes sociaux, on va dire. Mais tout en restant de la musique populaire. Donc vous imaginez cet apprentissage, tout d'oreille en plus, personne ne lisait la musique, on écoute une cassette d'un Tunisien, on la reprend au luth, on la reprend au synthétiseur, on écoute et on apprend très très vite. Donc dans les structures mentales, il y a une capacité d'improvisation qui est extraordinaire. Méconnu comme étant extraordinaire, en tout cas, malheureusement, mais une capacité de création qui est en fait la particularité de toutes les traditions orales. Les traditions orales ont des avantages sur la capacité d'improvisation et de disponibilité, pas seulement pour imiter, parce que là je vous parle d'imitation, mais certains, les plus téméraires, d'imitation ou de reprise si vous préférez, mais là les plus téméraires composaient quand même aussi de la musique.
sur les thèmes d'aujourd'hui, sur les thèmes de l'époque en tout cas. Alors bien évidemment, pour se tirer un peu la bourre, comme on dit en français, on peut énumérer des exemples de situations un petit peu conflictuelles. Bon, par exemple, pendant un gala, dans une salle des fêtes, ben, il arrive que des musiciens d'un groupe volontairement sonorisent mal un autre, qu'ils ont invité, ils vont mal le sonoriser. Alors vous avez une table de mixage, si vous voulez, et il y a des ce qu'on appelle des potards, voilà, pour... voilà. Eh bien on va couper carrément le son de quelqu'un en plein milieu du concert. Voilà, il se faisait des petits coups comme ça. Par exemple, pendant une certaine période, il y a un chanteur qui obtient plus de contrats que d'autres. Donc ça va provoquer un petit peu de jalousie. On va essayer. Donc il y a un marché d'offres et de demandes qu'il faut réaliser aussi. Il y a aussi des musiciens qui possèdent un matériel électrique très important, par exemple synthétiseur, double clavier, enceinte, amplificateur, micro. Eh bien, un micro spécial chant, eh bien, ça peut aller jusqu'à 1 500 euros, à l'époque 10 000 francs, pour l'achat de tous ces instruments. Et ça va modifier des rapports à la fois avec le public, qui voudra, puisque les morceaux ou les musiques de synthétiseurs sont au pays, il voudra retrouver les musiques de synthétiseurs aussi. Donc, progressivement, le synthétiseur va prendre la place, va enlever tout ce qui concerne les instruments arabes traditionnels, garder quand même la darbouka de temps en temps, mais en tout cas enlever le violon, enlever même la guitare électrique, le synthétiseur passe partout. Et progressivement encore, fin des années 90, le DJ arrive dans les mariages. Et là, les musiciens sont évincés, on va dire. Les musiciens, on fera plaisir à papa et maman dans un mariage, on fera plaisir à papa et maman ou à papy et mamie, aux anciens, en faisant venir un groupe, mais où il n'y a pas forcément des instruments traditionnels, mais où il y a le synthétiseur, par exemple, et ensuite, dans la soirée, on aura le DJ pour animer. Alors, je vais terminer, je vais avancer un peu. Que là, je c'est pas que je m'égare, mais oui, j'aurais voulu vous parler un petit peu plus de la place du chanteur aussi, parce que le chanteur est quelqu'un qui est très demandé. On demande en général beaucoup plus des chanteurs, si vous voulez, que des musiciens. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, au Bar Le But? Eh bien, au Bar Le But, on demande toujours les chanteurs. Hein, dans le central, vous voyez, le QG. On demande les chanteurs. Donc, voilà, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que Rabba Marnaoui est là? Oui. Alors, Rabba, il répond. Voilà, t'as besoin de quoi ce soir? Ah oui, c'est pour un mariage. D'accord, il y a combien de personnes? Combien tu donnes? Est-ce que c'est au plateau? Est-ce que tu me donnes? Etc. Et là, il va composer son équipe. Puisqu'il y a plein de musiciens qui sont là et qui attendent, donc il va composer son équipe. Alors soit c'est circonstanciel, soit il va faire appel à quelqu'un, et ça a plutôt été le cas à la fin des années 90, cette évolution aussi de situation ou d'attitude, de posture, c'est qu'on va faire plutôt appel à, on va dire, des connaissances proches ou des amis qui ne sont pas forcément là, alors que dans les années 80, c'était plutôt, tiens, tu joues de la darbouka, viens avec moi, tu joues ça, etc., etc. Voilà. Donc on est revenu aussi à des situations où, après une ouverture qui était énorme, eh bien on revient à quelque chose qui est uniforme, avec le synthétiseur, comme je vous l'ai dit, mais aussi avec des gens qui ne connaissent pas tout le répertoire ou qui ne connaissent plus le répertoire varié. Donc il y a un capital, puisque nous avons des possessions aussi, il y a un capital prestige. Le prestige social, c'est le chanteur qui l'a. Hein. Alors, la solidarité de groupe, elle ne peut plus être la même, forcément. On appelle ça, si vous voulez, d'un terme grec, philia. La philia, c'est les liens traditionnels qui peuvent exister entre individus, et des liens traditionnels que on peut vivre nous aussi par la fraternité, par exemple, ou le fait d'aimer avoir des amis et des liens très proches. Elles s'amenuisent progressivement et se transforment en rapports interpersonnels et souvent égoïstes, avec des affinités complètement différentes. Je vous l'ai dit, les animations de soirée dans les bars sont effectuées seules ou maximum à deux à la fin des années 90, et il y a un déploiement de matériel de sonorisation qui est l'occasion d'afficher aussi ses possessions. J'ai du matériel dernier cri, qui rappelle, pour les gens qui n'y connaissent rien, ou qui sont là, une forme de professionnalisme. Ah, il y a du matériel, il est professionnel. Et puis quoi? C'est pas compliqué. Les gens qui venaient consommer, on va dire, de la détente, qui venaient consommer, si on peut parler de consommation, bien sûr, qui venaient se retrouver dans ces bars musicaux, eh bien, il y a un glissement de génération, c'est-à-dire que ce ne sont plus les mêmes, et progressivement, eh bien, comme il y a, vous voyez la difficulté, en tout cas ici en France, qu'on peut avoir avec les exilés, il n'y a plus, les exilés, c'est presque terminé. Donc c'est terminé dans le sens où les politiques françaises ou les politiques de gouvernement ont toujours, depuis les années 90, font toujours croire, en tout cas, qu'il y a une invasion, qu'il faut refouler à la frontière, qu'il faut, etc., etc. Donc, il y a moins de gens qui viennent, et puis c'est plus les mêmes. Et il faut pas compter, c'est la petite anecdote, il ne faut pas compter aussi sur les... tiens, il est encore vivant. Il faut pas compter sur les jeunes issus de l'immigration, ce qu'on appelle les beurs communément, ou en tout cas ceux qui sont nés ici dans les années 60, ce qu'on a appelé les grands frères, hein, c'est eux qui ont fait la marche des beurs, par exemple, en 82. Eh bien, on ne peut pas compter sur eux, parce que, pour la petite anecdote, je n'ai jamais vu des jeunes de mon âge d'origine arabe, d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne, dans les bars. Ils ne fréquentaient pas ces bars. Et quand je leur ai dit, parce que j'ai habité très longtemps à Vénissieux, quand je leur ai dit, si vous voulez, ce soir je vais faire une soirée avec la génération de vos parents. Non, arrête, tu vas faire quoi? Mais n'importe quoi. Venez, vous allez voir. Ouais, mais nous, on a été interdit d'y aller, il ne faut pas y aller. Donc ils avaient une espèce il y avait aussi chez eux une espèce de diabolisation de tous ces bars. Et en fait, ils ont passé un moment formidable parce que je les ai amenés, donc ils ont dit, mais c'est pas possible. En fait, je les ai vexés, quoi. Ils ont dit, c'est pas possible qu'un Français connaisse mieux notre culture que nous-mêmes. C'est pour ça que je vous incite à lire Sayad, parce qu'il explique tout ça, Abdelmalek Sayad. C'est vraiment très très beau. Bon. Vraiment, retenez-le, je vais... Il y a un livre qui s'appelle... Je l'ai là, d'ailleurs, comme ça... C'est un grand sociologue. Voilà, c'est un ouvrage qui s'appelle La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré. Et Abdelmalek Sayed, en plus d'analyser, vous voyez comme quoi l'analyse n'est pas forcément froide. Abdelmalek Sayed, la double absence, double absence, aux éditions du Seuil, collection Libère, édition du Seuil, Libère, Seuil. Abdelmalek Sayed est mort en 98, et non pas en 94, comme je t'avais dit la dernière fois. Et cet ouvrage date de 99. Voilà.
Alors, ils ont été un peu vexés, effectivement, parce que les anciens qui étaient là-bas aussi étaient heureux de les retrouver. Bon.
Je ne vous ai pas tout dit, mais je vais arrêter là. C'est bien. Une heure, hein. J'essaye de tenir le timing aussi, Françoise. Oui ? Oui, oui, je vais tenter le coup. Attends. Ah oui, d'accord, je la vois pas, la flèche. Ouais. Voilà. Alors lui, je vous ai dit que c'était le... Attendez, je vais mettre peut-être... Ah oui, j'économise un peu l'écran. Donc regardez les photos, hein. Regardez bien les photos, il y a une esthétique quand même, c'est très simple, hein. Là, vous voyez la voiture ici. Hein? Vous voyez la voiture, toujours bien, impeccable. Voilà. Alors, ensuite, il y en a un autre. Alors lui, non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Ah ouais. Alors regardez, voilà, en voilà un que... Alors Zaidi El-Batni, qui est donc de Batna. Alors lui, c'est des... Alors donc, un qui est romantique à Afsouni, il n'était pas très dangereux, on va dire. Il plaisait aux femmes. Par contre, Zaidi El-Batni, lui, il rigolait pas. Il parlait du chômage. J'ai des extraits aussi de chansons. Je peux vous les lire, elles sont chouettes. Voilà. Lui, il parlait du chômage. Il parlait, par exemple, des arrestations. Vous voyez ici, là, les arrestations. C'est-à-dire qu'il est représenté, il attend tranquillement, et puis... est représenté, mais sous forme dessinée, vous voyez, très, très sommairement. Et vous reconnaissez, ou si vous ne les reconnaissez pas, vous reconnaissez l'aspect politique avec Boudiaf ici, Wali Boubendien, et ben là encore, il faudrait que je vous renvoie à... c'est pas très connu, tous les rapports avec l'Algérie, malheureusement. Hein. Quelle erreur. Mais bon, bref. Et là, bien évidemment, le chômage, l'ouvrier... Ici, Zaidi El-Batni, encore. Vous en avez un autre ? Oui, mais non, pas celui-là. On va pas mettre celui-là. Excusez-moi. Alors, Staifi, donc ils viennent de Sétif. En fait, c'est pas compliqué. Si, par exemple, je viens de Lyon, je m'appelle Richard, et bien ça serait Richard El-Youni. Vous comprenez ? Donc, quand vous voyez El Staifi, ça veut dire de Sétif. Quand vous voyez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Donc, c'est Amar, c'est Rachid. Rachid, c'est... voilà. Et lequel je voulais vous montrer. Ah oui, c'est les autres. Voilà, les autres. Il y a des femmes quand même, il y a quelques femmes. Ah, voilà Rabat. Donc là... Là, Rabat, c'est carrément avec le fusil, quoi. Non, c'est un fusil qu'il tient, hein. Oui. C'est un fusil, ça date des années 80. Alors, quelqu'un d'un peu de rescapé, on va dire, Mortar El-Jemali. Alors lui, il est un peu bizarre parce que il utilise le oud, c'est-à-dire le luth arabe. Hein, Mortar. Ici, vous voyez Cheb Lardar, qui fait un succès raï des années 90. Parce que le rail, on va dire, il a fait beaucoup de bien, mais il a fait beaucoup de mal aussi, dans le sens où tout le monde a cru, enfin certains qui étaient vedettes ont cru qu'ils auraient le même succès que Cheb Khaled ou Cheb Mami, par exemple. Donc là, vous le voyez, il est en studio, donc de suite l'image moderne. Rabat qui a pris une pause à côté, vous reconnaissez du Rhône. Hein. Voilà. Alors Lounas, lui, c'est un Kabyle, parce qu'il y a aussi les Kabyles. Je vous ai pas parlé des Kabyles, non plus. Les Kabyles, pas très nombreux dans ces milieux de bar. Hein. C'était complètement différent. C'est plutôt des Arabes. Bon, est-ce que vous avez des questions à poser, des commentaires, des...